Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. Le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, amis bons vivants. C'est les bons vivants de l'été. Installez-vous, hein. Vous êtes ici chez vous, de la fourche à la fourchette. Chaque samedi, nous militons pour une cuisine de saison à la maison. Alors, nous profitons de l'été pour retrouver les meilleurs moments à cette table. On va commencer, tiens, par attraper le melon pour bien le cuisiner. Et comme l'été, c'est aussi la saison des grandes tablées, nous allons faire cuire des pâtes, mais alors là, toutes les sauces, avec Alessandra Pierini. Elle est à la tête de Rap, une épicerie italienne à Paris. Et elle va nous aider à choisir les bons produits et puis surtout à devenir incollable hein, sur la cuisson des pâtes. Alors en ce qui concerne notre plan de table, alors là, écoutez bien, nous avons reçu deux invités que de nombreux Français rêvent d'avoir à table. Gérard Lanvin et Olivier Marchal sont venus partager leur coup de fourchette avec nous. Et vous entendrez, ils sont généreux les gaillards. Allez, chaque samedi, vous le savez, nous commençons par un petit tour au marché. Et pour ces meilleurs moments, nous vous avons demandé vos recettes pour cuisiner l'été. Petit festival de réponses sur plusieurs marchés de France.
Ce que j'aime particulièrement faire l'été, c'est le ceviche à la péruvienne, donc qui est du poisson mariné dans du citron, gingembre, de céleri et avec un accompagnement maïs et patates douces.
J'adore le tian, faire des tians. D'abord, je fais cuire les oignons dans le four, dans l'huile d'olive. Et ensuite, je dispose tous les légumes. Et là, je le laisse cuire facilement 3-4 heures à 100 à peu près, 100-120. Très, 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 très doucement. C'est très confit après. C'est délicieux.
Allez, 3 plus 1 gratuit, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Vraiment n'importe quel type de salade où on met tout ce qu'on veut dedans. Et au moins, c'est facile à faire. Il n'y a pas de cuisson.
Crumble fraise rhubarbe qui est excellent. Je mélange beaucoup avec la fraise. Rhubarbe abricot, ça mélange très bien aussi.
Toast chèvre frais gratiné dessus.
C'est pas mal, ça me donne envie. On l'a pas encore faite, mais ça va venir.
L'été, sur les salades diverses, il y a tellement de petits produits qu'on fait des grosses salades. On l'agrémente avec des petites choses en plus. Ce sont des beaux moments de partage.
Eh bien voilà, c'est ça l'été. Retrouvons-nous tous à table. Tiens, on va faire le sondage autour de la table des bons vivants. Votre recette incontournable de l'été, Anne-Laure Femme.
Ça va être celle qui me rappelle les grandes réunions de famille en Corse avec un gros poisson fait au barbecue, bourré d'herbes aromatiques et d'herbes de Provence. Et là, vous êtes le roi du monde. Et puis une excellente huile d'olive, par exemple, comme celle que vous avez citée, Laurent.
On achète, Yves Candebord.
Alors moi, ça va être du végétal. C'est des haricots verts cuits à la vapeur. Une fois qu'ils sont cuits, je les rafraîchis pas. Je coupe dedans des fraises, une râpée de gingembre, un trait d'huile d'olive, haricots verts, fraises, gingembre, huile d'olive. C'est frais.
Et acidulé.
C'est acidulé parce que là, justement, la fraise va amener un peu le côté acide. C'est simple et c'est bon.
Olivier Pouls.
Moi, je fais une parmigiana. J'adore ça. C'est facile à faire. C'est des aubergines, des tomates, du parmesan, bien évidemment, de la mozzarella. On met ça dans un beau plat au four avec un trait d'huile d'olive.
Et c'est
on
fastoche.
L'oublie. C'est fastoche, c'est délicieux.
Alors, je me suis amusé à faire un sondage dans les couloirs d'Europe 1. Quel fruit, selon vous, représente l'été ? À l'unanimité, la réponse est le melon. Ne bougez pas, il sera parmi nous dans un instant. Comment le choisir ? Comment le préparer ? On vous dit tout. A tout de suite et bon été sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Bariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est le fruit de l'été par excellence. Le melon va être de toutes les tablées cet été. Vous l'entendez, il est en train de se faire croquer à la table des bons vivants. Facile à préparer, sucré, rafraîchissant, parfumé. Il a tout bon. Il a de quoi avoir le melon, entre nous.
Cette assiette-là particulièrement.
Oui, alors c'est un petit accord. On va vous en parler dans un instant après le reportage. Mais c'est un accord melon. Burrata, c'est quelque chose que j'aime faire tous les étés. Bon, on peut en parler maintenant, effectivement. Voilà, une belle burrata bien crémeuse avec du melon et un filet d'huile d'olive. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Debord ?
Moi, je trouve que c'est un superbe équilibre parce que déjà, le melon, il est de qualité parce qu'il est bien mûr. Il est bien gorgé de sucre. La burrata amène ce côté lacté.
J'adore.
Ce côté crémeux lacté qui est très agréable. Il y a aussi, Laurent, vous avez oublié de le dire, un petit coup de moulin à poivre.
Oui, absolument.
Qui relève tout ça.
Ça relève.
Et ça, c'est bon. Le melon avec du poivre, c'est toujours très agréable.
Il n'y a pas que la tomate mozza dans la vie, il y a aussi le melon burrata,
et puis
Olivier
surtout,
Pouls.
On oublie le melon porto. Ça, c'est quand même juste un enfer. C'est triste pour le melon et triste pour le porto. Et puis le melon jambon, ça va quoi. C'est très original, c'est très frais. J'adore.
Plein de bonnes choses, hein, le melon, Olivier Pouls.
Ah ben, évidemment, d'abord, il nous rafraîchit. Il y a beaucoup d'eau dans le melon. Et comme en été, on a besoin de s'hydrater. C'est le fruit idéal pour l'été. Et puis, il y a assez peu de calories en fait dans le melon, même s'il est sucré, mais c'est du fructose. Il y a des vitamines, B9, du potassium. Enfin, c'est excellent pour votre santé. Et puis surtout, le melon, attention, ne le mettez pas au au frigo pour le garder.
Ah non.
Parce qu'on
non,
casse
non.
les arômes.
Oui, et il donne toute son odeur au frigo et il prend les autres odeurs. Enfin, c'est un enfer, le melon au frigo, surtout pas. Et on parle de melon charentais, mon cher Yves Condebord.
Il faut de suite faire tomber une confusion. Le melon charentais, c'est une variété. C'est surtout pas une zone de production. On peut trouver le melon charentais en Béarn, au Pays Basque.
Il en perd ses lunettes. Il en a perdu ses lunettes.
Il est passionné. Il est passionné quand il parle.
Mais oui, et du côté de Cavaillon, voilà, c'est pas les Charentes.
Hein. C'est une variété, c'est pas une zone de production.
Et il a fait du chemin aussi pour venir jusqu'à nous, Anne Lorfam, vous qui vous intéressez justement à l'empreinte, pas carbone, mais justement géographique de nos aliments.
Il est arrivé quand même au 15e siècle, ce qui est plutôt respectable. Et il était surtout à l'origine produit en Charente, d'où son nom actuel. Mais aujourd'hui, il va plutôt être produit en majeure partie en Poitou-Charentes, mais aussi à 19% de la production, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Bah là, il y a du soleil. Hein.
Je fais ma petite touche botanique. Ce n'est pas un fruit, le melon, c'est une cucurbitacée, la cousine de la courgette et du potiron.
Mais c'est un légume, c'est vrai. Alors justement, on vous emmène près de Cavaillon pour le récolter chez Ghislain Jean, à la ferme de Nogaret à Monteux, dans le Vaucluse. Une belle terre de melon. Marion Sauveur y est allée. Alors comment le récolter et le choisir? La réponse de Ghislain Jean, à la ferme de Nogaret.
Vous avez le melon, vous avez une feuille qui est attachée au pédoncule. Et cette feuille-là, quand le melon est mûr, c'est un des critères. Elle jaunit, elle se sèche. Quand on coupe, voilà, on coupe la queue la plus longue possible. Ça, c'est un critère de qualité aussi.
C'est une indication de sa fraîcheur. Hein.
Voilà, tout à fait. Si vous avez un pédoncule qui est complètement sec, c'est un melon qui a 10-12 jours de récolte. Et après, on voit quand même aussi la cerne au pédoncule. Là, vous avez un melon qui est coupé à maturité et qui sera excellent.
C'est pas facile à choisir un bon melon bien mûr.
Il faut qu'il soit régulier au niveau de la forme, les tranches bien dessinées, l'écriture que vous avez dessus bien répartie. Et ensuite, le critère principal, à volume égal, vous les soupesez, vous prenez toujours le plus lourd.
Gorgé de sucre.
C'est qu'il a une cavité grainière la plus petite possible, donc il a été bien nourri.
Alors on s'est mis au frais hein, pour pouvoir déguster ce melon.
On appréciera davantage. Quand on coupe un melon, mais bien sûr, il faut prendre un couteau à lame lisse, pas à dents, et on abîme la chair quand on le coupe avec un couteau à dents. Quand on l'ouvre, là, c'est là qu'on obtient les graines qui sont attachées au niveau de la tranche. Et là, l'intérêt, c'est de faire tomber les graines, de ne pas couper la partie qui supporte les graines, parce que c'est la partie la plus sucrée. Donc, c'est dommage de l'enlever. Je vous laisse déguster. Il y a ce qu'il faut. Du sucre, du goût.
Et il est juteux.
On prend plaisir à le manger.
Et oui, juste tapoter pour faire tomber les graines et garder la substantifique moelle du melon, à savoir sa belle chair parfumée et rafraîchissante. Votre recette de melon, les amis. Anne Lorfam, tiens, pour commencer.
Moi, j'oserais une petite soupe froide de melon. C'est peut-être
j'adore.
Le malmené, mais si vous le relevez avec un peu de gingembre, par exemple.
Ou du pastis.
Pas mal, Laurent.
Un chouïa de pastis.
Vous m'avez scié, là. Bah voilà, je vais essayer gingembre pastis melon pour la prochaine.
Yves Condebord.
Alors moi, c'est une recette emblématique du Crillon quand j'étais avec Christian Constant. On faisait un melon rôti, une tranche de melon juste rôti avec une petite noix de beurre. Une fois qu'il est un peu coloré, mais pas cuit, on le sort, on dépose dessus une boule de glace chocolat.
Ah bon,
melon chocolat.
C'est gonflé votre truc.
C'était deux étoiles, Laurent.
Parce
c'était
que je
deux
sais, étoiles. Le melon chaud, ça fait peur aux gens, effectivement. Il est juste marqué, là, vous voulez dire.
Il n'est pas cuit, il est juste marqué.
D'accord.
On le caramélise, on lui donne juste une petite coloration et on dépose dans une assiette avec la boule de glace chocolat. Et si vous avez la chance d'avoir de glace chocolat au piment d'Espelette, alors là, c'est le petit jus en culotte courte.
Vous parlez, j'adore, je suis fou du piment d'Espelette.
Et
Olivier
c'est
vrai, Pouls.
C'est assez difficile parce que le melon, c'est pas un produit qui se cuisine assez facilement. Alors moi, je l'associe tout simplement, non pas à de la burrata, mais maintenant que je l'ai goûté, je vais le refaire.
Ah oui,
mais moi,
bien,
je l'associe avec de la feta. Et je trouve qu'un carpaccio de melon avec de la feta qu'on vient émietter par-dessus, on peut même rajouter quelques petits éclats d'olive, ça magnifie bien le melon
la
aussi.
La pastèque aussi marche bien.
Exactement.
Avec le melon. Faites de grandes salades comme ça, fraîches et de saison, évidemment. Petit clin d'œil, tiens, à Édouard Loubet qui nous écoute au domaine de Cap-Longue à Bonnieux, qui est un super chef et qui, moi, m'a fait découvrir un accord melon et son vinaigre des quatre voleurs. C'est un vinaigre à base de lavande. Très, très peu de lavande dans un vinaigre de vin vieux. C'est un mélange absolument incroyable. Il a un bistrot, justement, au domaine de Cap-Longue où on mange de très belles pizzas, où on mange aussi de belles salades. Donc, vous pouvez aller lui rendre visite si vous êtes dans le coin sur la route des vacances.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors ce matin, on va parler de la pasta, hein, la vraie, celle qui se déguste, al dente. Je reçois Alessandra Pierini, qui est propriétaire de l'épicerie Rap à Paris, une des meilleures ambassadrices de la gastronomie italienne en France. Elle vient de sortir un joli livre avec Sonia Esgulian aux éditions de l'Épure, La pasta Allegra. Bonjour Alessandra.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est la pasta Allegra? Buongiorno.
Buongiorno.
Ah, l'accent italien, mais tout de suite. Ah,
qu'est-ce que c'est
bon. On est en voyage, on y est.
Mais c'est pour ça qu'on a, on a mis un titre italien, la pasta Allegra, donc la pâte joyeuse, parce que c'est comme ça qu'il faut la voir. C'est, en Italie, c'est tout un art de vivre. C'est quelque chose que nous avons vraiment à la base de notre cuisine et qu'on essaie de sublimer au maximum à partir de la cuisson jusqu'aux sauces. Et pas vraiment aux accompagnements, comme on fait en France, parce que c'est vraiment un plat principal.
C'est ça, exactement. On va en parler tout à l'heure. Coquillette ou spaghetti?
En tant qu'Italienne, spaghetti.
Ben oui, voilà, je vous pose la question parce que la coquillette, c'est la deuxième pâte la plus mangée en France après les spaghettis, justement.
Absolument.
Il y a compète.
Qui n'existe pas en Italie. Hein,
non, exactement. Il n'y a pas de coquillette en Italie. C'est la rentrée des étudiants. Le mois de septembre, en général, avec les taxes, les impôts, allège un petit peu notre porte-monnaie. C'est une bonne raison de se mettre à la pasta parce qu'elle est économique. La pasta, elle est
Absolument.
Généreuse et économique.
Tout à fait. Même si on choisit une pâte artisanale un petit peu plus chère, avec un paquet de pâtes de 500 grammes, on peut faire 4 bonnes assiettes de pâtes. Donc après, il faut juste choisir un peu son accompagnement et c'est vrai que ça reste un plat très accessible.
Alors c'est quoi la vraie pasta italienne? Parlons du choix déjà de la pâte. Ben,
déjà, il faut essayer. Nous avons maintenant beaucoup plus d'indications sur les paquets. Surtout, on choisit, nous on parle dans notre livre avec Sonia, d'une pâte IGP. Donc ce sont des pâtes qui ont un terroir. Ce sont les pâtes qui sont produites à Gragnano, d'indication géographique protégée, qui est le berceau anciennement de la pâte sèche en Italie. Ce moule de blé dur, de très bonne qualité. Il faut qu'il y ait minimum 13% de protéines dans la pâte. C'est pour garantir une bonne tenue. Une bonne cuisson aussi, et qu'après elle puisse bien s'enrober de sauce dans l'assiette.
Il n'y a plus beaucoup de gens qui font ces pâtes en Italie. Ils sont combien? 14, c'est ça?
Là, à cet endroit-là, à Gragnano, il y a 14 pâtissiers artisanaux. Justement, nous étions soutenus par un de ces pâtissiers, qui est la maison Garofalo, qui fait partie donc de cette sélection assez rare IGP.
Si je ne trouve pas cette marque-là au supermarché, je me trouve devant le stand de pâtes qui est de plus en plus grand. Mm-hmm. Quelle pâte je choisis? C'est quoi la petite indication qui nous permet de choisir des bonnes pâtes? C'est déjà la couleur peut-être?
Déjà, c'est la couleur. Ce sont des pâtes qui sont aussi bien la couleur assez claire. Si c'est des pâtes à la semoule de blé dur, il faut bien faire attention. Et à la catégorie semoule de blé dur avec l'eau ou éventuellement semoule de blé dur avec des œufs. Donc là, elles seront bien sûr plus jaunes, mais s'accompagne avec d'autres sauces. Et ce n'est pas la plupart qu'on trouve dans les supermarchés. Et après, une autre catégorie, c'est la pâte fraîche et c'est autre chose qu'on trouve au rayon frais.
Sinon, dans les épiceries italiennes, on va pouvoir trouver des pâtes artisanales tranquilles.
Bien sûr, sans problème. Et on en trouve même ici dans les grandes surfaces. Maintenant, on essaye de choisir une pâte, justement, comme on disait, avec un bel aspect. Et on a minimum 12% de protéines, c'est marqué sur les paquets.
Alors, après avoir bien choisi ces pâtes, il faut les passer à la casserole. C'est ce que nous allons faire juste après ça. Ne bougez pas, quelle pâte pour quelle sauce? On va tout vous dire. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
Le cuisinier secoue les nouilles. Je répète, le cuisinier secoue les nouilles.
Laurent Mariotte.
Eh ben oui, nous aussi, on secoue les nouilles ce matin.
On dit non.
Dans la vie, il y a des sujets importants tels que la géopolitique, l'économie, mais il y a aussi l'art de la pasta. Vous entendez les pâtes, justement, de belles pâtes bien claires. On en parle justement ce matin avec Alessandra Pierini de l'épicerie Rap à Paris, qui a sorti un très joli livre aux éditions de l'Épure, La pasta Allegra, avec Sonia Esgulian. Alors, des rigatoni, des penne, des linguine, il existe des dizaines de pâtes différentes en Italie, Alessandra. Lesquelles ont vos préférences, tiens?
Moi, j'adore. Après, ça dépend quelle sauce. Hein. Quelle sauce on les accompagne, c'est très important. Si je mange des pâtes al pesto, j'aime bien des spaghettis, par exemple.
Oui. Elles accrochent bien le pesto.
Les pâtes longues, en général, elles sont faites pour les sauces assez légères.
Les linguinés.
Fruits de mer, linguine, super. Ça peut être fruits de mer avec une sauce pas trop lourde. Si par contre, on veut manger des pâtes en sauce, ça ne sera pas en Italie des spaghettis bolognaise parce que ça n'existe pas non plus. Ce sont des tagliatelle à Bologne qu'on mange avec la sauce, le ragoût.
C'est un ragoût de viande, c'est un plat paysan, c'est un plat rustique, la bolognaise.
C'est ça, il faut une pâte qui tienne bien la sauce et qui est quand même lourde aussi dans l'assiette.
Quelle quantité d'eau pour quelle quantité de pâte, Alessandra?
Il faudrait 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâte et 10 grammes de sel.
C'est ça,
donc
c'est
il
facile.
Il faut vraiment que les pâtes nagent vraiment bien dans l'eau parce qu'elles ont de l'amidon donc qui va se disperser dans l'eau. Il faut vraiment qu'ils ne se raccrochent pas aux pâtes pour pas qu'elles soient trop collantes.
Et on garde toujours un petit peu d'eau de cuisson pour mettre dans la sauce des
ça,
pâtes.
Cet amidon dans l'eau sert justement pour émulsionner les sauces, pour qu'elles soient justement crémeuses sans le rajout de crème.
Dans la carbonara, par exemple, pour la rendre crémeuse et onctueuse, ou dans un pesto pour le rallonger et même le rendre onctueux.
Toujours, alors, pour le chauffer.
Alors, on le met comment, froid ou chaud, ce jus de cuisson, cette eau de cuisson? Parce qu'il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression.
On le rajoute pendant que les pâtes cuisent dans l'eau. Vraiment chaud, toujours chaud.
Et question, sans doute ridicule, mais pour un Béarnais, je n'ai pas la culture de pâtes.
Je vous en prie.
Est-ce qu'on met de l'huile d'olive quand on cuit dans l'eau, quand on cuit les pâtes?
Non, jamais.
Il n'y a qu'en Béarn qu'on le fait.
Mais oui, ça ne sert à rien.
Voilà.
Ça ne sert à rien,
en principe. Disons qu'on le met en France parce qu'on utilise des toutes petites casseroles, alors qu'il faut vraiment des gros faitous pour cuire les pâtes. Et en plus, l'huile, quand elle se colle sur les pâtes, empêche la sauce d'être absorbée. Donc, c'est vraiment dommage.
Alors, on aime les pâtes al dente, c'est-à-dire résistantes sous la dent. C'est ça, al dente, l'étymologie.
Elles sont plus digestes aussi, normalement, parce que l'amidon ne se transforme pas complètement en sucre rapide. Donc, ça reste des sucres lents quand les pâtes elles sont encore fermes sous la dent.
Alors, combien de temps de cuisson pour être al dente? Ça dépend des pâtes
ça
et des paquets.
Ça dépend du format de pâte, absolument. Mais très, très, très souvent, sauf sur des pâtes vraiment très artisanales, le temps de cuisson est indiqué sur le paquet. Si on les fait sauter à la poêle, comme on fait souvent en Italie pour bien les enrober à la sauce, on enlève une petite minute de cuisson sur les pâtes dans l'eau.
Alors à chaque pâte, son type de sauce, allez, choisissons des rigatoni qui sont ces espèces d'énormes penées, on va dire,
des
jolis
coupé
gros
droit.
Tubes coupés droit.
Ça, c'est une pâte rayée déjà.
Oui.
Donc la rayure permet d'accrocher la sauce, donc c'est bien avec une sauce assez lourde et consistante.
Généreuse.
Soit avec de la viande, soit avec de la viande, des légumes,
Une bolognaise.
Ça peut être une bolognaise, une sauce à la viande, un ragoût.
Là, j'ouvre votre livre vraiment au hasard, la pasta allegra, et là, je tombe sur les spaghettis au jus de veau avec des cèpes sautés.
Voilà,
c'est la saison des cèpes,
ça.
On en parlait justement.
Absolument.
Comment vous faites ça alors?
Alors ça, d'abord, il faut un peu plus de temps pour faire le fond de veau, qu'on fait un morceau de veau qu'on laisse mijoter longtemps avec des légumes, qu'ensuite on filtre.
Bravo.
Mais c'est très intéressant pour aussi, on l'utilise les cèpes, ça sera des cèpes frais qu'on fait juste sauter à la poêle, qu'on incorpore aux pâtes, qu'elles finissent de cuire dans le jus de veau dans la poêle.
Moi, j'ai une petite astuce pour ça, parce que souvent les gens bloquent un peu quand on parle de fond et de sauce. C'est vous faites un sauté de veau, vous le mouillez abondamment, vous allez le manger le sauté de veau un jour et vous récupérez du jus. C'est du fond de veau.
C'est ça.
Tout simplement.
Et on le filtre.
Voilà, parce que les gens, souvent, quand on parle de sauté,
ils ont peur.
Ils ont peur.
Ça paraît technique, parce que dans les restaurants, c'est un peu technique.
C'est une sauce de sauté de veau. Voilà.
Eh bien, on prend ça. Et les oreilles qui étaient en daube de poulpe au vin rouge.
Oh là là,
Olivier Pouls, ça vous parle,
table,
ça?
À table, messieurs.
Oui, moi, j'ai une passion pour les pâtes aux sardines, spécialité du sud de l'Italie.
Ah, oui.
Et je trouve ça absolument délicieux.
Oui, on a d'ailleurs une pâte qui ressemble un peu à la pâte aux sardines, qui après est préparée avec de la chapelure de pain.
Voilà, et du fenouil.
Et du fenouil.
C'est sardine crue ou sardine en boîte?
Normalement, c'est de la sardine fraîche. Qu'on va,
la sardine en boîte marche très bien. L'anchois aussi pour le remplacer.
Une dernière sauce de saison facile à faire avant de faire une pause,
avec
Alessandra.
Avec la courge, pancetta et un peu de romarin.
Oh, c'est bien ça.
C'est en
purée, comment sauter?
La courge qu'on fait cuire en petits morceaux avec de la pancetta. Donc
c'est
un
bien,
petit peu de gras comme ça pour donner du goût. Un petit peu de romarin pour la parfumer. Une partie, quand elle est presque cuite, on la passe, on en fait un peu une purée pour faire le fond de la sauce dans les pâtes. Et le reste, on la mélange aux pâtes, en garniture.
Et quel type de pâte là?
Là, nous, on a fait les lumaconi, donc des grosses pâtes comme des escargots.
Ah oui, allez, oui.
Mais c'est bien toujours avec des petites pâtes qui puissent bien, bien ramasser la sauce.
Oh, que c'est bien ça. Maintenant que vous savez cuire les pâtes comme de vrais Italiens, amis auditeurs, eh bien, ne bougez pas, on revient avec d'autres recettes dans un instant. On cuisine les pastas ce samedi matin. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, on se régale ce samedi matin. Merci beaucoup, Alessandra Pierini. Vous nous avez apporté de jolies pâtes là, avec un accompagnement fait de tomates et d'aubergines. Ça ressemble un petit peu à la caponata. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ces pâtes? On dirait des fusilli, mais coupées en deux dans la longueur.
Oui, ça ressemble. Elles s'appellent des riccioli chez la pâte garofalo. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des boucles en fait, qui sont coupées en deux. le délicieux, c'est ça.
Et Laurent, des pignons de pain aussi. Hein.
Les pignons de pain,
des pignons et de la poutargue, râpée en fin.
Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon, bravo. Alors, vous avez écrit un livre avec Sonia Esgulian, qu'on aime beaucoup, qui est déjà venue nous rendre visite dans cette émission. La pasta allegra aux éditions de l'Épure. Fusionné, fromage de brebis, pain grillé et anchois, lasagne de canard à l'orange sanguine. Pancetta et romarin, on en a parlé tout à l'heure. On se rend compte que c'est déclinable à l'infini, la pasta, en fait.
Absolument. Et d'ailleurs, dans notre livre, on a fait un mélange de recettes plus métissées pour Sonia, peut-être un peu plus traditionnelles pour moi, vu les origines. Mais c'est vrai que les pâtes, on peut les accommoder vraiment comme on a envie. On peut les faire dans n'importe quelle partie dans le monde avec les ingrédients qu'on trouve sur place.
C'est universel.
Et c'est universel et très bon partout.
Et revenons sur une idée justement préconçue, les pâtes ne font pas grossir. C'est la sauce qui fait grossir, mais ce n'est pas la pasta.
Bah oui, on essaie de faire un plat équilibré toujours. Hein. C'est pour ça, si on pense aux recettes traditionnelles italiennes du cœur de l'Italie, on mettait beaucoup de légumineuses avec les légumes. On faisait des pâtes dans le bouillon ou la pasta mista, comme on a donc dans le livre. Ce sont des pâtes, un mélange de pâtes de formes différentes, mais qui cuisent en même temps.
Alors moi, j'ai eu un coup de foudre pour des pâtes avec des fusionnés de pommes de terre à la moutarde.
Oui.
À la moutarde. C'est quoi les fusionnés de pommes de terre ?
Ça, le fusillone, c'est une technique qu'on fait avec un petit ustensile qu'on peut trouver partout dans la quécaillerie sur le marché. On refait des fusils, et ça veut dire la
spirales.
Forme des pâtes, des spirales comme ça, en forme
de
pommes de
terre.
Et donc, on dirait un petit peu, c'est un trompe-l'œil.
Ah, c'est super. Et vous les faites cuire comme des pâtes.
Comme des pâtes.
Et vous mettez d'autres pâtes sèches avec.
Pâtes sèches avec. La moutarde.
À l'ancienne.
Ça va très bien à l'ancienne.
Avec gros grain.
Et ça fait un petit peu de décoration.
Je trouve que la pasta, c'est vraiment le plat impeccable pour se remettre à cuisiner. C'est à la portée de tout le monde et c'est fastoche parce qu'on le décline en fonction de ses envies, Olivier Pouls.
Oui, et il y a une autre chose qui est fantastique avec le plat de pâtes, c'est que c'est un plat familial. D'abord, tout le monde, en général, aime la pâte à la maison. Et c'est le plat qu'on va amener au centre de la table. On va tous pouvoir manger en même temps. Il n'y en a pas un qui reste dans la cuisine. Et on le partage. Et ce sens du partage, le plat de pâtes, c'est vraiment magique.
Eh bien, merci beaucoup, Alessandra Pierini, d'être venue ce matin.
Très
partager
heureuse.
Votre
merci.
Pasta allegra aux éditions de l'Épure. Merci, Alessandra. Et à bientôt.
Merci
à bientôt.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi, moins le quart. C'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, hein, vous le savez. Alors comme nous, vous aimez ses talents de conteur et sa fibre théâtrale, eh bien on le retrouve justement devant le Théâtre de l'Odéon, à Paris, au restaurant méditerranéen. Et il nous croque, écoutez bien, le portrait d'un paysan qui a compté dans son enfance. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour les jolis compagnons de table. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis plutôt un nostalgique, mais un nostalgique heureux, joyeux, à l'évocation d'un paysan que j'ai vraiment adoré parce que c'était un peu les fermes d'autrefois. Et ce paysan s'appelait Roger Friot. Il avait une ferme à Couleuvre dans l'Allier. Et cet homme-là était le voisin direct de ma grand-mère. Donc il a un peu marqué toutes mes vacances. Il marquait les saisons. C'est-à-dire qu'il faisait les foins à l'époque des foins, c'est-à-dire jusqu'à fin juillet. Il faisait ensuite le blé au mois d'août. Ensuite, il attendait le mois d'octobre pour rentrer le bois pour l'hiver. D'ailleurs, je me souviens encore de lui ramenant son troupeau le soir pour la traite où les vaches avaient encore un nom. Là aussi, quelle poésie, Marguerite, Myosotis pour le taureau, etc. Il suivait avec son bâton toujours trop grand, son chapeau de paille sur la tête et il avait cette bande de flanelle autour du ventre pour tenir au chaud son dos de travailleur des champs. Il avait l'art et la manière de nous fabriquer nos rêves, puisque dès que j'étais rentré à la ville, je ne faisais qu'une chose, je faisais Roger Friot. En plein Clermont-Ferrand, en pleine ville, j'avais des petits animaux miniatures et je reconstituais sa ferme et j'emmenais les vaches au champ, etc., etc. Je voulais prolonger ce rêve. Donc je vous en supplie, laissez-nous les rêves donnés par ces paysans de cette époque, parce que ce sont eux qui savent remettre l'église au milieu du village.
Nous sommes 100% d'accord et comme on le dit régulièrement à cette table, Yves Candebord, pas de cuisine sans paysan.
Non, il n'y a pas de cuisine sans paysan, il n'y a pas de cuisine sans bons produits. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est ces gens qui font un travail d'orfèvre, il faut les soutenir parce qu'ils sont mis en difficulté souvent. Et souvent, c'est sans aucune raison.
Eh bien, on dédie cette émission à Roger, justement, l'ami d'enfance de Jean-Luc. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec d'autres meilleurs moments. Bonne cuisine d'été.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Ça y est, c'est un moment qu'on attendait. C'est le moment d'accueillir nos invités. Et puis, quels invités, mes amis? D'un côté, un ancien inspecteur de police devenu un acteur-réalisateur qui compte dans le cinéma. De l'autre, un ancien vendeur de fripes à Saint-Ouen devenu un des acteurs préférés des Français. Petit-fils de cheminot pour l'un, petit-fils de forain pour l'autre. Ils partagent les valeurs de l'essentiel. Et aujourd'hui, à leur tour de jouer au grand-père dans Papy Sitter, une vraie comédie familiale, Olivier Marchal et Gérard Lanvin sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour et merci.
Bonjour messieurs, merci de nous recevoir.
Ravi de vous recevoir, deux gueules, deux natures du cinéma français qu'on rêve d'avoir à table. Donc on va vous cuisiner pendant une demi-heure, hein, là jusqu'à midi et demi. Quel genre de bon vivant vous êtes, tiens déjà, à table, Gérard Lanvin?
J'aime manger, j'aime boire, un bon vivant, c'est ça.
C'est ça,
et voilà. Donc je vis en plus.
Et manger, bouger, un peu de sport pour garder la ligne, quoi.
Oui, ça, ouais. il faut. Non, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, hein, si tu es acteur de cinéma, en l'occurrence, et si tu veux continuer à travailler.
C'est ça.
Donc je mange beaucoup, je bois beaucoup et je fais beaucoup de sport. Ben moi, voilà. Mon truc, c'est beaucoup.
C'est ça, c'est ça. Rien à moitié.
Bienvenue.
Merci.
Olivier Marchal, quel genre de bon vivant? Vous êtes
moi, je suis un peu comme Gérard.
Ah oui,
alors, c'est ce qui va bien. Sans le sport. Voilà. Donc, moi, je bois beaucoup, je mange beaucoup et puis je rigole beaucoup. Donc, pour moi, bon vivant, c'est les plaisirs de la table. J'ai été élevé comme ça. Mon père, mes oncles faisaient des grosses bouffes dans le sud-ouest à Bordeaux. Mon père m'a amené au restaurant dans le Gers. Et, voilà, j'ai appris la bouffe et le pinard avec lui. Quoi.
Quel est votre goût de la semaine, Gérard Lanvin?
Un foie de veau.
À la maison, au resto?
Ah non, au resto.
Au resto.
Oui, mais.
Votre goût de la semaine, Olivier Marchal?
Moi, c'est une escalope normande. Voilà.
C'est bien ça.
Au restaurant aussi.
Ça évite de faire la vaisselle.
Est-ce que vous êtes branché ustensile de cuisine, messieurs? Petit électroménager, Gérard Lanvin.
Non, pas vraiment, pas forcément.
Si, le tire-bouchon.
J'ai vu une inquiétude pour Gérard. J'ai vu une inquiétude dans son regard.
Il a plusieurs tire-bouchons. Moi, c'est le limonadier, le tire-bouchon.
Moi, je transpire. Alors, c'est l'indispensable.
Je vous présente Yves Cordebord à côté de vous qui aime tester et détourner les ustensiles de cuisine. Et là, il a trouvé un appareil de chez Tefal qui s'appelle le Snacking Collection, c'est une sorte de machine à croque-monsieur à tout faire. Et ouais. Évidemment, vous l'avez testé, Yves.
Oui, je l'ai testé. Alors, c'est un vrai retour en enfance. C'est une machine qui est très, très simple. Mais par contre, on peut faire énormément de plats avec. Parce qu'il y a des petites plaques de cuisson qui sont interchangeables. Oui. Alors, ça part d'un croque-monsieur, bien sûr, classique, d'une gaufre, d'un pancakes, d'un buns, d'une omelette. On peut faire des tourtes de viande.
Des pancakes, et là, ils sont beaux, là.
Et tout ça, Laurent, avec une préparation qui dure 3 à 4 minutes, et la cuisson, même pas 5 minutes. On peut enlever très facilement ces grilles, on les enlève très facilement. Elles se lavent très facilement.
Tout est facile.
Tout est facile.
Combien ça coûte cette histoire?
Alors, ça coûte 85 euros, et après, chaque jeu, on a 3 jeux avec une machine, et chaque jeu de plaque coûte 20 euros.
Alors là, vous avez fait une tourte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tourte? Racontez-nous.
Elle est bonne.
Dans cette tourte, là, j'ai pris. Alors, elle a été cuite un peu à l'avance. Là, Laurent, vous, c'est une omelette. Là, vous y coupez à l'apéritif, c'est très facile.
Alors,
une tourte, j'ai pris une cuisse de canard confite que j'ai simplement effilochée. J'ai rajouté dedans un peu d'herbe, du sel, du poivre, des morceaux de fromage.
Vous avez fait l'omelette avec ça,
J'ai fait
super.
L'omelette avec ça aussi. J'ai pris ma plaque plate, j'ai mis une feuille de pâte feuilletée qu'on achète dans le commerce, un peu de moutarde, mon effiloché, à nouveau une plaque de feuilletage. J'ai mis dans ma machine, 8 minutes après, j'ai une tourte. Je trouve que c'est un ustensile.
Oui, c'est beau ça.
Original.
La tourte, oui.
Olivier Marchal, la tourte.
Vous... Oh, c'est un délice.
Hein, vous validez?
Oh là là.
Je trouve que c'est un appareil qui est original quand on veut faire un apéritif rapide à la maison, mais aussi pour les jeunes qui ont des petits studios, qui n'ont pas la chance d'avoir un fourneau. Ouais. Un tel ustensile leur permet de faire une petite cuisine personnalisée, très rapide à faire.
Gérard Lanvin?
Très bon, pas de problème là-dessus. Le fromage aussi. J'aime mélanger les
saveurs.
Les saveurs,
oui.
Mais après, Laurent, ce qui est important, c'est souvent ces appareils. Quand on a un appareil à gaufres, on l'utilise une fois dans l'année. Là, c'est vraiment l'appareil que vous laissez sur votre plan de travail.
On s'en sert.
Et que
quoi.
Vous utilisez du 1er janvier au 31 décembre
merci.
Pour différentes préparations.
Yves Candebord, le Snacking Collection de Tefal. On vous mettra les références sur europe1.fr. Ne bougez pas, nous avons deux beaux invités, deux bons vivants. Olivier Marchal d'un côté, Gérard Lanvin de l'autre, qui s'hydrate parce que c'est très important de s'hydrater quand on doit tenir jusqu'à midi et demi. Hein, Gérard.
Un pommard, c'est idéal pour s'hydrater.
Un beau pommard.
Un bon pommard.
Ne bougez pas, on revient juste après les titres du journal. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est midi.
Le repas autour de la table des bons vivants revient dans un instant, mais tout de suite l'essentiel de l'actualité, Florence Cohen.
Et il fait chaud et vous êtes peut-être sur la route. Ce samedi est classé noir par Bison Futé dans le sens des départs, rouge dans celui des retours. Et en plus, la canicule vous complique la tâche. 9 départements sont classés en vigilance rouge, c'est-à-dire presque toute l'Île-de-France, plus l'Eure et la Seine-Maritime. 53 départements en vigilance orange. Le thermomètre va atteindre, voire dépasser les 40 degrés cet après-midi. Il n'y a que sur les côtes et sur les Alpes que la chaleur sera supportable, sous les 30 degrés disons, le tout accompagné quand même d'un temps magnifique. On fera bien sûr un point météo dans le journal de midi et demi. Dans ce journal, on parlera aussi de cette grande manifestation qui aura lieu en fin d'après-midi à Beyrouth. Les Libanais veulent montrer leur colère après l'explosion du port qui a fait au moins 154 morts et 5000 blessés. C'était mardi dernier. Une visioconférence des donateurs aura lieu demain et une conférence cette fois des donateurs également sera organisé. Quel avenir pour le Liban? C'est la question qu'on posera à notre invité à 12h45. Il s'appelle Ziad Majed et il est politologue franco-libanais. Le port du masque est désormais obligatoire en extérieur dans 3 nouvelles villes, Marseille, Rennes, Carcassonne. Le coronavirus continue de progresser. 2300 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France. C'est la plus forte hausse depuis le mois de mai, depuis maintenant 3 mois. En football, Lyon affrontera samedi prochain Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. L'OL a éliminé hier soir la Juventus de Turin. Lyon a perdu 2-1, mais la victoire à l'aller a suffi. C'était une victoire 1-0 pour l'OL à ce moment-là.
C'était Florence Cohen, retour de l'info, vous l'avez entendu à 12h30 pour le journal de la mi-journée.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert, allez
3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, le meilleur de la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, les amis, avec les meilleurs moments. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, nous avons tâté le melon pour en faire des gazpacho et des carpaccio pour se rafraîchir. Alessandra Pierini nous a rappelé les bases pour cuisiner les pâtes à l'italienne. Bah tiens, du temps qu'on y est, je vous rappelle les proportions pour réussir la cuisson. 1 litre d'eau, 100 g de pâtes et 10 g de sel. Retenez ça à vie, ça marchera bien. Nous allons retrouver tout de suite deux bons vivants passés par ici. Gérard Lanvin et Olivier Marchal, deux fines gueules qui se tiennent mieux à table qu'à cheval, comme disait Lino Ventura. Et entre les souvenirs pâtissiers d'Olivier Marchal et puis les plats canailles de Gérard Lanvin, vous devriez vous plaire à cette table. Dites-moi messieurs, dans un monde qui devient de plus en plus policé, politiquement correct, ça va être agréable un petit peu de faire l'acteur aussi et de jouer des personnages parfois un petit peu immoraux, Gérard Lanvin. Je ne pense pas forcément à Papy Sitter, mais à tout ce que vous avez pu faire dans votre carrière.
Bien sûr que c'est agréable de toute façon d'endosser des costumes qui ne sont pas nos quotidiens. C'est ça qui nous amuse dans les métiers qu'on fait. C'est-à-dire qu'on joue des caractères différents d'une autre, en se servant de nos personnalités, nos points de vue aussi pour les interpréter. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on a le fantasme de certains trucs et on peut les assumer au cinéma.
Olivier Marchal et Gérard Lanvin, vous ne vous quittez pas beaucoup parce que je m'amusais à regarder un petit peu. Il y a eu le fils à Joe de Philippe Guillard qui réalise d'ailleurs Papy Sitter dans lequel vous êtes. C'était la première fois que vous rencontriez au cinéma dans le fils à Joe
Oui, on s'était croisé il y a longtemps.
Au cinéma, oui.
C'était ça. Il y a eu les Lyonnais.
Les Lyonnais, oui, je l'ai eu comme patron.
C'est ça.
Ouais.
Et il y a un prochain film en préparation, Olivier Marchal.
Je viens de le terminer là, il s'appelle Bronx et ça va sortir en septembre.
Voilà. Et on retrouvera.
Il y aura Gérard et Jean Reno, on trouve. Et puis toute
une participation
de génération
de service. Parce que il faut bien qu'il ait des.
Mais il me fallait deux vieux, donc ils sont plus nombreux. Donc ça te même vous tapez acteur vieux, il y a Lanvin qui sort en premier sur Google.
En attendant le plat du jour qui va arriver dans un instant, autour de quel plat vous aimez vous retrouver, vous, dans la vie?
Tous les plats.
Nous, on aime bien la côte de bœuf. À IGG, on s'en est fait quelques-unes.
Ouais, mais cassoulet aussi, c'est intéressant.
Blanquette, si je vous dis blanquette.
De veau, bien évidemment.
Alors, c'est pas une blanquette de veau que je vous propose.
Pour ça.
Mais c'est pas loin, ça va vous plaire, je suis sûr. Ouais. Pour changer du veau, on vous propose une belle blanquette de joue de porc. Un morceau très fort.
Bah évidemment, la joue de porc.
C'est une recette de Hélène Tubac. On s'est dit qu'il fallait mettre un petit peu de féminité quand même dans cette émission aujourd'hui. Donc Hélène Tubac qui est la chef du restaurant Les Deux Bécasses à Cerdon du Loiret en Sologne. C'est une belle auberge contemporaine comme vous aimeriez. Je suis sûr que ça vous plairait comme adresse. Ouais. Marion Sauveur était aux premières loges pour la recette. Un bouillon d'un côté, une joue de porc tendre et bon marché de l'autre. tendez l'oreille et la joue.
Là, on a nos petites joues de porc, qui est en fait un abat. Hein. On couvre d'eau, et c'est là qu'on va rajouter le cidre. Je la fais cuire au four dans un faitout fermé. Je trouve que ça confie beaucoup mieux les morceaux de viande.
Pour 1 heure et demie.
On peut même aller jusqu'à 2 heures. Et après, on a une joue de porc qui se mange à la fourchette. Pendant que la viande cuit, on peut faire le roux. Je vais aller prendre un petit peu de bouillon. Le beurre est fondu. Donc là, on redescend un petit peu le feu avant d'incorporer la farine. Quand vous avez l'effet sable mouillé, ça y est, il faut incorporer progressivement, pour pas qu'il y ait de grumeaux, le bouillon. On va rajouter le jaune d'œuf, un peu de gingembre pour casser le sucre. Et on est bon.
On met tout simplement la viande maintenant à l'intérieur du roux.
Voilà. On goûte ?
Ah bah oui.
On a exactement le soyeux qu'il faut.
On n'a vraiment pas besoin du couteau.
Non,
hein.
C'est l'objectif. Hein. Il faut la confire, cette joue. Un petit peu la force du gingembre. On garde quand même le bon goût de ce bouillon.
C'est délicieux.
Et bon, on y est. Bravo,
formidable,
les filles.
Formidable d'entendre des femmes faire ça.
Cuisiner quoi, ensemble. Ah, bah ouais, merci, ludique. Marion Sauveur, pour ce plaisir, joli reportage. Hein. Les deux bécasses à Cerdon du Loiret, en Sologne. Vous prenez le temps de cuisiner, Gérard Lanvin?
Pas
un petit
du
peu.
Tout.
Jamais.
Eh non. Pas du tout. Enfin, je fais la cuisine de survie, moi.
C'est quoi la cuisine de survie ?
Je peux me faire des pâtes, ça sans problème,
une
puisque c'est
sardines.
Marqué sur la boîte 6 ou 8 minutes. je peux me faire une boîte de maquereau, mais sans problème.
Poisson bleu, excellent, excellent pour la santé, le maquereau.
Non, voilà, c'est de la survie, omelette, machin, des trucs basiques. Mais j'ai une femme qui fait tellement bien la cuisine que je la laisse faire. Et même la vaisselle, je la sers.
Fais attention, par les temps qui courent,
oui,
Gérard.
Non, mais tant pis, les temps qui courent, c'est comme ça. Mais ils courent les temps, mais pas moi.
Joli, c'est joli. Et Olivier Marchal, vous prenez le temps de cuisiner un petit peu?
Non, malheureusement, moi je suis fils de pâtissier en plus, donc j'ai travaillé avec mon père dès l'âge de 13 ans, contrairement à Gérard qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais. Donc moi j'allais chercher mon argent très petit. Non, je plaisante. Non, j'ai appris à faire les gâteaux, la pâte à choux, les
tartes. C'est une chanteuse pâte à choux.
C'est une chanteuse pâte à choux, merci Gérard. Mais je sais faire l'omelette pomme de terre sarladaise, ça voilà. Moi je peux me faire ça, je peux me faire ça avec une salade verte et puis un bon pinard et un bon plateau de fromage.
C'est
un
bon choix ça.
Mais c'est fait demain, je peux pas bouffer chez toi.
Mais c'est vrai que j'ai pas le temps.
Ne bougez pas, on revient dans un instant et on va répondre aux questions que vous avez posées sur le fameux répondeur, le 3921. Des idées de recettes et des questions sur les produits de saison, eh bien nous serons là pour y répondre avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. A tout de suite et bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Avec Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Chaque samedi de 11h à midi et demi, vous écoutez le son de nos recettes qui chantent et les coups de fourchette de nos invités. Ce midi, nous recevons deux bons vivants qui se tiennent bien à table. On en a la preuve depuis midi. Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Non, pas du tout. Ils apprécient les bonnes choses, c'est
absolument.
Ça que je veux dire. À l'affiche de Papy Sitter, une comédie familiale, vous incarnez tous les deux grands-pères, on l'a dit, complètement opposés. L'un est bohème, joué par vous, Olivier Marchal. L'autre ne jure que par l'ordre, c'est vous, Gérard Lanvin, et vous vous retrouvez à garder votre petite fille, et puis à un moment, il faut quand même la nourrir. Et vous n'avez pas la même conception de la nourriture, Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Qu'est-ce que vous lui faites à manger, Gérard, dans le film ?
Du sein, du poireau.
Vapeur.
Du poireau vapeur. Tout est vapeur, pratiquement. Tout est vapeur.
Du sein, ouais. Pas du nichon. Ouais. Pas du nichon. Tu ne fais pas du nichon.
J'ai bloqué.
C'est pas possible. Il m'a bloqué.
Voilà.
Je me prépare des nibards.
Ouais, quand on mange sain, on dort sain. Quand on dort sain, on travaille bien. Voilà.
Et quand on mange sain.
Et bois du vin, t'auras des copains.
C'est ça. Et quand on mange sain sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Voilà. Jean-Pierre Marielle dans Calmos. Absolument.
Ah,
et vous débarquez voir votre petite fille avec votre appareil cuit-vapeur pour qu'elle mange correctement.
Ouais, hein. C'est un mec très organisé. Dans le coffre de sa voiture, il y a tout. Toutes sortes de piles. Enfin, on ne sait jamais. Le mec se déplace avec son matériel. Ouais.
Et vous, Olivier Marchal, c'est un grand-père bohème qui vient de l'univers du cirque.
Hein, oui,
on le découvre.
Un dingue.
C'est la junk food. Hein, plutôt,
Exactement. Oui, c'est plutôt pizza emportée, McDo. Et donc voilà. Enfin, bon, c'est tout.
Oui, je sais ce que tu fais.
C'est le pommard qui
agit. Difficile à comprendre.
Non, j'ai pas déjeuné, il est midi, j'ai bu deux verres de pommard.
Qu'est-ce que tu fais là? T'as fait la moitié de la tourte.
On parle vin et cinéma parce que dans un instant, les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls seront consacrées au vin et au cinéma. Le rapport très très intime entre le vin et le cinéma, les films que vous avez pu faire, Gérard Lanvin, autour du vin au
J'en
cinéma.
J'en ai fait un qui s'appelle Premier Cru.
On va en parler dans un instant avec Olivier. Mais juste avant, c'est l'heure de répondre aux questions que vous posez au 3921. Eh bien, voici la question de Margot.
Bonjour, Margot de Paris. Je voudrais connaître la vraie recette du riz pilaf afin de ne plus le rater. Merci la table des bons vivants. Au revoir.
Ah, c'est un ratable, vous dites, Yves Candebord. C'est comme souvent, les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées. Margot, on va lui donner le truc, c'est la quantité d'eau par rapport, ou de bouillon par rapport au riz déjà.
J'ai envie de dire que le riz de pilaf, c'est de la pâtisserie.
Oui, c'est précis.
Voilà, c'est précis, il y a une règle, il ne faut pas en déroger. Alors déjà, le riz, surtout, n'allez pas prendre un riz à risotto.
Non, pas de riz rond.
Non, mais l'erreur, c'est souvent
oui,
ça.
Oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, il y a cette lubie là, du risotto, donc tout le monde prend un riz à risotto, ça n'a rien à voir.
Non, c'est pour le risotto.
Ce qu'on trouve dans le commerce, un riz à paella, entre guillemets, et qui ne colle pas. Voilà, c'est la base. Après, on fait tomber un oignon ou une échalote, on met son riz dedans, on le nacre. Avant de mettre le riz dedans, on mesure le riz.
Nacrer, c'est le rendre translucide en le mettant dans la matière grasse. Voilà.
Mais l'important, c'est qu'il faut mesurer le riz avant.
Ouais, exactement.
Vous le pesez ou vous le mettez dans un récipient.
Ou le verre mesureur. Moi, je fais ça au verre mesureur, ça marche bien.
Exactement. Donc, vous savez exactement combien vous avez de riz. Donc, vous mettez votre riz dans votre oignon, vous le rendez translucide et vous mouillez avec une fois et demi. Voilà le volume du riz. Vous lui donnez une petite ébullition, vous l'assaisonnez et vous l'enfournez dans un four pendant entre 15 et 16 minutes.
C'est
dans
ça.
Un four. Et vous n'y touchez pas.
Le truc de pro, c'est ça, c'est le four. C'est pas sur la plaque de cuisson, c'est au four à 200
four
degrés.
À combien voilà.
200 degrés.
Il faut un four à 200 degrés. Mais surtout, on ne le remue pas, on ne le touche pas, on le laisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le riz, les graines de riz vont absorber intégralement tout le liquide et vous allez avoir un riz pilaf qui est terminé. Quand vous le sortez avec une fourchette, vous y mettez une belle noix de beurre, vous l'égrenez à la fourchette de noix de beurre et votre riz pilaf, il est prêt.
Gérard Lanvin boit vos paroles, Yves Candebord.
Il est bon ton riz, mon ami.
Quand vous voulez.
Une question sur laquelle on pourrait vous aider en cuisine, tiens, Olivier Marchal.
Franchement, j'adorerais pouvoir... un bœuf bourguignon. Voilà, je sais pas le faire. Hein. Voilà,
c'est spécialité de ma femme.
C'est assez facile, ouais. En plus, un bœuf bourguignon. Demandez à votre boucher de choisir les bons morceaux pour le bœuf bourguignon. Vous le faites bien revenir, bien que ce qu'on appelle caraméliser.
Ouais.
Le mieux, c'est une cocotte en fonte.
Ouais.
Voilà. Après, vous y rajoutez une garniture aromatique dedans, des carottes, des oignons, et vous le mouillez avec du vin. Alors, on peut le faire mariner à l'avance si on veut.
Il y a un grand débat sur la marinade parce qu'on dit que parfois ça rétracte la viande, que ça ne sert pas grand-chose.
Après, l'important, avant de mouiller avec le vin, vous le portez à ébullition et vous le faites flamber.
Mais il faut quel genre de vin, par exemple?
Alors, le mieux, c'est pas aller prendre... Surtout, prenez pas un pommard, c'est totalement ridicule. Mais par contre, prenez quand même un bon vin.
Oui, il ne faut pas mégoter sur le vin, parce que la qualité de la sauce est proportionnelle à la qualité du vin.
À la limite, il faut presque un vin qui a un peu de caractère, tanate. Un tanate, ou alors un beau gamernet franc, des vins qui ont un peu de corps, qui ont de la puissance, qui vont supporter la cuisson et qui vont transmettre à la viande toute sa saveur.
Ok, voilà. Merci.
On continue à parler de vin dans un instant avec Olivier Poul. Ce sera les 2 minutes du vin consacrées au cinéma avec quelques surprises, vous allez entendre. Merci Yves Candebord pour ce beau bœuf bourguignon et vous retrouverez toutes les références sur europe1.fr. Ne bougez pas, nous sommes avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal à la table des bons vivants. Bon samedi midi sur Europe 1, à tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
L'émission touche à sa fin et nous sommes attablés avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, c'est le cas de le dire. On vous demandera le mot de la fin, FIM, tout à l'heure. Hein.
Voilà.
Donc réfléchissez, Gérard Lanvin. Dans un instant, on va vous découvrir côté table,
compliqué.
Justement, grâce au questionnaire des bons vivants. Gérard Lanvin, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Nous sommes ici au studio Coluche, à Europe 1. Un de vos grands copains, un de vos meilleurs amis. C'est vrai, ça, cette légende, que vous êtes rencontré en lui vendant une salopette aux fripes de Saint-Ouen?
Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Mais en même temps, il n'était pas encore le Coluche que tout le monde connaissait. Hein. C'était un garçon qui arrivait avec une 750 Harley Davidson. Moi, j'avais une Electra Glide. Il s'est garé devant mon stand parce qu'on avait une moto en commun, la marque. Et on a parlé de ça. Puis il a vu une salopette suspendue. Je faisais de la fripe américaine. On était très peu à en faire ça aux puces. Et c'était une Oshkosh, la marque Oshkosh, à rayures. Et voilà, il m'a acheté ça. Alors, tout le monde dit, je lui ai vendu sa salopette. Je lui ai vendu une salopette.
Oui, c'est ça, il en a plusieurs en plus.
Et on a discuté. Ensuite, Martin Lamotte est venu me voir, etc.
Pour construire la veuve Pichard, qui est le point virgule aujourd'hui.
Voilà, ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un qui avait un camion. J'ai dit, oui, j'ai un camion. Et voilà, et puis j'ai été les aider à faire et les travaux rue Sainte-Croix de la Bretonnerie d'un café-théâtre qui s'appelait La Veuve Pichard, Maison Sérieuse, et qui est venu, le point virgule, à l'identique de ce qu'on a construit.
Exactement, mais à chaque fois que je passe devant, je pense à vous, parce que je me dis quelle histoire incroyable, cette bande de potes comme ça qui jouait et en même temps qui a construit ce café-théâtre.
Ouais, incroyable.
Comment il était Coluche à table?
Ah bah, Coluche à table, il nous amenait chez Trois Gros, il prenait tout le menu. On était 6 et il disait au mec tout.
C'est beau,
et comme ça, à 6, on mangeait tout. Enfin, lui, il nous donnait ce qu'il goûtait et nous, on finissait les assiettes qu'il goûtait.
Au niveau de la bouffe, il nous a fait aussi, parce que c'était un excessif, mais en même temps, il allait au bout des choses. Il a voulu être un spécialiste du pâté de foie. On allait aux boucheries Bernard à 6h ou 7h du matin acheter des foies de volaille. Et on avait toutes les marques de boutons. On avait des merceries sur les épaules, quoi, toutes les tailles en boutons. Jusqu'au moment où il a réussi un pâté de foie extraordinaire.
Ah oui, donc
mais pendant un mois, il a fait que du pâté de foie.
Il a fait des tests, quoi.
Il a fait des tests avec nous.
C'est ça.
Parce que comme il nous avait sous la main, c'était plus facile.
Quelle histoire. Un ouais. beau pâté de foie, hein. ça fait rêver, ça, Olivier Marchal.
Tout à fait.
Un vrai bon pâté de foie. Ouais, on aime ça, le tartiner.
Mon père faisait le pâté lorrain aussi.
Ah, le pâté lorrain. Ouais.
J'ai les souvenirs de pâté lorrain.
Cette farce à base de veau et de porc mariné dans un gris de tôle.
Exactement.
Comme ça. C'est sublime, ça. C'est magnifique. Alors, pour accompagner un bon pâté lorrain ou alors une belle part de pâté de foie, il faut un bon vin. Et on va parler vin avec Olivier Pouls. Et Olivier, évidemment, vous vous êtes inspiré de nos deux invités pour faire un rapport entre le vin et le cinéma, parce qu'il y en a des rapports. Hein.
Ben c'est vrai que le vin et le cinéma ont toujours entretenu des bonnes relations. Il y a des scènes mythiques, bien évidemment. Écoutez ça.
Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un...
C'est de finesse.
Ouais. Château Leuville-Lascaz, 1953 ouais. Exact ouais.
Bravo, Julien Guillaumard. Oui. Alors, ce qu'il raconte n'est pas tout à fait exact concernant le cru en question, parce qu'il n'y a pas de coteau ensoleillé à Leuville-Lascaz, mais c'est pas grave, la scène est quand même assez remarquable. Mais c'est vrai que le vin et le cinéma s'aiment beaucoup.
Je vous arrête deux secondes, Olivier, parce que L'Aile ou la cuisse, vous avez joué dans L'Aile ou la cuisse, Gérard Lanvin.
Oui. Ah, j'ai joué, il s'en vante pas. À L'Aile ou la cuisse dans le cirque. Coluche nous disait, mets-toi bien à droite, qu'on voit ton bras, comme ça tu reviendras demain. On faisait de la figuration.
Vous êtes un personnage derrière de Funès, là, en clown.
En collant blanc,
avec
blanc,
un moule-burne qui a fait rêver des générations.
Alors, plus sérieux, après L'Aile ou la cuisse, enfin plus sérieux en tout cas, avec un vrai rôle, là, et puis un joli rôle dans un film qu'on aime beaucoup qui se passe en Bourgogne, Olivier Pouls.
Il y a beaucoup de films de relations, finalement, le vin est une matière qu'on va utiliser comme finalement un fil rouge, mais pour parler d'autre chose, et souvent des relations entre père et fils, parce que c'est vrai que le vin, c'est la transmission. C'est quelque chose de très fort dans ce registre-là. Et puis on a un petit extrait, évidemment, ça va vous rappeler quelque chose.
Cep séché, sous-bois, c'est pas du tout jeune, ça. Ah, putain. Romanée Conti 66. L'année de mes premières vendanges. D'année en année, j'ai appris à les connaître, mes vignes. Tu sais, ici, en Bourgogne, il y a deux choses qui sont sacrées. La première, c'est de faire le meilleur vin possible pour honorer la terre. Et la deuxième, c'est la transmission.
Ben voilà, premier cru, film que vous avez tourné en Bourgogne, et d'ailleurs, en hommage ou en honneur de ce film. Vous avez tourné juste à côté, je vous ai apporté un délicieux pommard, Clos des Epnaux du Comte Armand, qui apparemment descend plutôt pas mal.
Oui, tout à fait, oui.
Il vous plaît, Gérard Lanvin ?
Il n'y a qu'à goûter, c'est ça le problème.
Vous verrez vite. c'est la jolie preuve.
Ouais, oui,
c'était naturel de parler de vin comme vous l'avez fait dans cette scène, de commenter, ou alors vous avez pris conseil avec un œnologue, avec un sommelier pour le vocabulaire du vin pour,
Non, tout était écrit par le metteur en scène, mais le truc, c'est que moi, je suis élevé dans le Bordelais. Donc moi, c'était plutôt le Bordeaux, mon histoire. Donc j'ai vendu le Bourgogne, mais le Bordeaux était plus mon histoire. En tout cas, mon palais était culotté au Bordeaux.
Alors à Bordeaux, il y avait évidemment Tu seras mon fils, avec Nils Arestrup, qui est un petit peu dans cette veine-là aussi, question d'histoire de transmission. Et puis il y a aussi, en Bourgogne à nouveau, l'excellent film de Cédric Clapiche. Évidemment, ce qui nous lie sur l'histoire, là aussi, d'une reprise d'un domaine par une famille qui s'était un petit peu déchirée.
Il y a des documentaires aussi, parfois intéressants à voir sur le vin, Olivier.
Alors il y a aussi des documentaires. Il n'y a pas très longtemps, on a vu L'âme du vin au cinéma, un documentaire sur la Bourgogne, très immergé dans ce qu'est la complexité de ces terroirs et les hommes qui font les vins. Et puis il y a quelques années le fameux Mondo Vino, dont on a énormément parlé, de Jonathan Nociter, une vision assez intéressante, un petit peu originale et orientée, on va le dire, du monde du vin, mais qui avait beaucoup et très bien marché au cinéma.
Eh ben merci Olivier, on vous retrouve dans L'Équipée Sauvage du camarade Mathieu Noël tous les jours de 16h à 18h. Gérard Lanvin, Olivier Marchal, vous avez souvent joué des flics qui mènent des interrogatoires. Eh bien, notre tour de vous cuisiner avec le questionnaire des bons vivants. Alors, Olivier Marchal, tiens, quel est le goût de votre enfance ?
Moi, c'est le canard à l'orange, que ma maman faisait excellemment bien.
Le goût de votre enfance, Gérard Lanvin ?
Escalope panée purée.
C'est du simple et de l'efficace.
Ah oui, ma mère était la reine de l'escalope panée, avec des petits citrons cuits dans la poêle et tout, super.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Une potée, je crois. Une bonne potée, ça reste... voilà.
Dans la mémoire.
Ah ouais, le goût de la potée, l'odeur de la potée, le chou.
Ah, ouais. Le chou, ouais, bah ouais, voilà. Ouais, et bon, ouais. Le chou, et pareil, ouais. La mauvaise presse, souvent le chou, mais qu'est-ce que c'est bon.
Ah,
un,
ouais.
Un chou bien cuisiné. Olivier Marchal, votre plus beau repas ?
Bah, j'en ai eu plein, notamment, je ne sais pas parce qu'il est là, mais c'est vrai, chez Yves. Et puis, mais il y a eu un moment où j'ai été invité à la table chez Guy Savoy, à la table des invités en cuisine. Et c'était la table des copains. On était avec Denis Charvet. Et j'ai vu l'arsenal militaire d'une batterie, d'une cuisine de grande batterie. Voilà. Et on a bouffé au milieu de tous ces gens qui travaillaient. Et c'était inoubliable. Voilà. Enfin, après, je ne peux plus vous dire ce qu'on a mangé, mais c'était délicieux. Et. Voilà, mais je m'étais régalé chez Yves aussi à sa brasserie.
Très grand chef, Guy Savoy.
Voilà.
Votre pire repas ?
Pire repas, alors c'était un tournage en Bulgarie. C'était la cantine de Bulgarie, voilà, tous les jours. C'était épouvantable. Voilà, mais c'est pas leur faute.
Gérard Lanvin.
Un riz de veau mal cuit.
Ah oui,
mal fait, quoi.
Ah oui, c'est
mal fait. Pire repas.
Ouais, ah oui. Ah, il faut que ce soit bien rosé.
Ouais, et parce que j'adore les abats, moi. J'adore le riz de veau.
Les produits tripiers, c'est magnifique.
Et là, quand c'est pas bon, ça vous met par terre, quoi.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Olivier Marchal ?
Eh ben, du sein.
Comme le dit Gérard, je mangeais du sein.
Et vous, Gérard Lanvin, quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
J'ai aucune raison d'aller sur une île déserte, mais au cas où ça arriverait, il y a du poisson autour. Donc, c'est du poisson.
On pêche.
Eh oui.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Gérard Lanvin ?
Olivier Marchal, Philippe Guillard et ma femme.
Et vous, voilà. Olivier Marchal ?
Bah, c'est un amour, j'ai dit à peu près la même chose. Il y a Lanvin, la Guy, il y a Le Cluise, enfin
tout. Guy Le Cluise, ah bah
voilà,
oui.
C'est super. Et puis acteur. Après, si, dans ceux qui sont morts, j'aurais rêvé de bouffer avec Ventura, Gabin, Bernard Blier, et voilà, et puis d'autres, mais
ils ont laissé les rondes serviettes.
Ouais. Ouais.
Confirme que fourchette à la main, vous.
Ouais, on veut savoir, ouais,
on dégaine bien.
On dégaine bien, ouais. Ouais,
voilà, on laisse rien.
Hein. Et le mot de la fin pour terminer, FAIM, Olivier Marchal.
Eh bien, si on allait se faire une bonne gamelle, maintenant.
Avec plaisir.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre, bien tendue.
Ah, ben bah voilà, si ton gros Patrick Topalov, les grands auteurs, voilà. Toujours.
Ben, bah, il les a tous, il a tous les albums.
Eh bien, voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons débarrasser la table avant de revenir samedi prochain avec d'autres bons moments. Le poivron nous en fera voir de toutes les couleurs et puis Camille Chamou viendra faire ripaille avec nous. En attendant... Prenez le melon, et le bon, hein, surtout, en carpaccio, tiens, avec des morceaux de jambon cru et puis des copeaux de tom de brebis. Vous aurez une belle entrée en matière pour ce week-end. Et si vous souhaitez faire de votre bouquet de basilic un beau pesto pour relever vos pâtes, vous retrouverez nos recettes de pasta sur europe1.fr. C'est l'été, faites le marché et la cuisine, sans oublier le reste. Hein. Bon week-end sur Europe 1 et à samedi.